Moi, je pense que c'est la question du lien. Ça renforce le lien. En fait, ça renforce le vivre ensemble. C'est pas forcément ce qu'on projette au départ. Au départ, on veut développer des projets, on veut que ce soit des projets de meilleure qualité. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même sur des échecs, ça a permis d'apprendre à se connaître, ça a permis à comprendre les points de vue, les postures aussi des uns et des autres. Et en fait, ça renforce notre capacité à débattre. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment le lien que ça peut générer. Au-delà parfois des dogmes qu'on peut avoir, il y a des hommes et des femmes en fait qui ont envie de faire avancer leur territoire, et donc même quand il y a des désaccords, et parfois il peut y avoir aussi des conflits, hein, des conflits à résoudre là-dessus, bah ça permet de les dépasser parce que on est quand même dans un objectif commun qui est de développer son territoire, et ça ça rassemble.
Bonjour et bienvenue sur IDETER, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Évrard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie.
L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire, c'est de s'accrocher à ses rêves.
En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à travailler dans ce domaine-là.
J'aime bien les gens qui... Essaye de diffuser de la joie, du vivre ensemble, de créer quelque chose ensemble, un peu partout là où ils sont.
Avec IDETER, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti! Bonjour! Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je vous retrouve avec plaisir au programme L'implication citoyenne comme pilier essentiel de la transition. Et pour en parler, partons à la rencontre du territoire qui est certainement le plus médiatisé de France lorsqu'il s'agit de transition écologique. L'ADEME l'a identifié comme étant un démonstrateur de la conduite du changement vers une ville durable. Ici, depuis plus de 30 ans, on expérimente, on développe, on conceptualise une méthode pour opérer la transition d'un modèle minier non soutenable vers un modèle de développement durable. Certaines et certains l'auront reconnu, bienvenue donc à Los Angeles, une commune située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France. Et pour me recevoir, à mes côtés, Geoffrey Maton, maire de la commune. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Alors merci de m'accueillir et de me recevoir Geoffrey, c'est un immense plaisir de venir ici pour échanger sur la méthode lossoise d'implication citoyenne. Je me réjouis déjà de l'échange que nous allons avoir. Et nous allons d'ailleurs présenter et décrypter cette méthode en deux parties. Donc la première avec toi, en tant qu'élu, et la seconde, plus technique, avec Antoine et Lucas, deux agents de la commune, avec lesquels je parle de méthode et de mise en œuvre. Alors car oui, l'implication citoyenne demande l'engagement à la fois des élus, mais aussi des services, c'est ce qu'on va voir dans ces épisodes. Mais avant de débuter, d'explorer pleinement le sujet, c'est une habitude dans IDETER. Geoffrey, première question, qui es-tu ?
Alors, moi, je suis un gamin du bassin minier, puisque je suis issu d'une famille, mes grands-pères étaient mineurs, donc une famille en fait assez classique, et je suis un jeune qui s'est très rapidement en fait engagé dans la vie associative de sa commune pour en devenir un peu plus tard, un peu par hasard, un agent. Donc j'ai été agent de la ville de Los Angeles pendant près de 20 ans, j'en ai été le directeur général des services, et puis depuis 2020 je suis élu, et enfin depuis le 2 avril 2023 je suis maire, et j'ai succédé à Jean-François Caron qui a été maire pendant 23 ans et son après son père qui lui avait été plus de 20 ans maire de la commune.
Alors comme tu le dis, Geoffrey, t'es arrivé salarié de la commune fin des années 90, il me semble, lors de la révision du POS.
Ouais, début des années 2000, exactement.
Début des années 2000, d'accord. Et alors, comment passe-t-on, en fait, d'agent à DGS, puis ensuite à élu?
Bah, pour la question d'agent, c'est assez simple, en fait, c'est assez classique, c'est-à-dire que j'ai passé tous les concours de la fonction publique, et au gré des réussites, j'ai pris des fonctions de plus en plus importantes dans la ville, jusqu'au concours d'attaché, qui est cadre de la fonction publique, et qui, du coup, m'a donné accès, en fait, aux fonctions de directeur général des services. Voilà, c'est des évolutions assez classiques dans la fonction publique. Ensuite, pour devenir élu, là, c'est une autre affaire, puisque c'était pas du tout prévu ni imaginé dans mon esprit, puisque je suis plutôt un acteur des associations et je n'ai jamais appartenu, par exemple, à un parti politique. Et là, c'était une volonté, en fait, de Jean-François Caron de quitter ses fonctions de maire. Voilà, après plus de 20 ans de bons et loyaux services, il avait envie de passer aussi à autre chose. Pour pouvoir prendre la suite, ça se bousculait pas au portillon. Et donc, avec son équipe politique, ils ont décidé d'organiser une élection sans candidat. Et donc, ils ont fait des rencontres pour essayer de définir les qualités attendues de la personne qui pourrait lui succéder. Et par exemple, il y avait des critères du type, il faudrait que ce soit quelqu'un de Los Angeles, il faudrait que ce soit quelqu'un qui puisse prendre la parole en public, quelqu'un qui connaisse les projets, enfin bref, beaucoup de critères. Et sur cette base-là, ensuite, dans un second temps, ils ont proposé des noms de personnes qui pourraient, dans la société civile, répondre au costume que l'équipe avait dessiné. Et puis, mon nom est sorti, a été proposé. Et à l'unanimité, ils ont voté pour moi. Et donc, à l'issue, ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe politique et de devenir le futur maire. Et donc, ce que j'ai accepté à une seule condition, c'est qu'on le fasse de manière visible dès l'élection auprès des habitants. Et donc, quand on a fait campagne en 2020, on a annoncé que dans notre équipe, il y aurait deux maires. Un maire qui est maire depuis plus de 20 ans et qui connaissent très bien, et puis un autre maire qui serait maire en 2023, qui connaissent aussi très très bien, mais avec une autre casquette, celle de technicien de la ville, et qui deviendrait du coup élu puis maire en 2023.
Très bien. Alors j'imagine que justement la transmission et l'accueil d'un projet politique de transition, puisque tu étais déjà dans la commune, a été facilité de cette position de DGS. Mais,
oui.
Mais vu que c'est pas les mêmes positionnements, comment ça se prépare?
Souvent je prends l'exemple du rugby.
Oui.
C'est-à-dire que un coup on est en première ligne, hein, où on pourrait aussi parler de front, hein, si on était plus militaire. Et donc, DGS, c'est à la fois être dans le moteur, le constituer, mais en même temps, c'est pas en rendre compte en première ligne. Quand tu es élu, t'es vraiment, et notamment en tant que maire, tu es vraiment en première ligne vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des partenaires, et donc il y a un changement. Donc effectivement, c'est facile. Parce qu'on a participé à l'ensemble de la création de la mécanique et des différents projets, notamment sur les questions d'implication. Moi, j'étais particulièrement cheville ouvrière. Mais le poste d'élu, c'est une animation de l'écosystème et surtout avec un devoir d'en rendre compte au quotidien à la population en direct. Et ça, c'est une autre affaire.
Est-ce que tes idéaux politiques... ont changé en étant maire? Ou est-ce que tu es resté un peu sur les mêmes idéaux en tant que à la fois agent DGS et maintenant maire?
J'ai envie de dire que ça renforce. Ouais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mes idéaux, elles restent assez simples. Hein. De où je viens, c'est plus de solidarité. C'est la question de l'émancipation des habitants. C'est la question de comment on crée du développement économique, une attractivité, mais qui soit respectueuse des hommes et de l'environnement. Et j'ai envie de dire que d'être en première ligne, ça renforce encore notre capacité à pouvoir agir et donc notre envie aussi d'agir. Donc j'ai envie de dire que j'ai jamais été aussi militant que depuis que je suis maire et j'ai envie de dire que ce soit côté valeur ou que ce soit côté vision, c'est vraiment un renforcement de ce qu'on peut faire quand on est dans les services, mais qui est aussi lié à une obligation de neutralité, de réserve quand vous êtes un fonctionnaire.
Alors j'aimerais qu'on parle maintenant de Los Angeles. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous présenter la commune à travers une sorte de carte postale sensorielle? Si Los est un son, un goût, une odeur ou une couleur, ça donne quoi, par exemple?
Ah, un son, un goût, une couleur. Je dirais le vert, je parlerai de la couleur, oui. Parce que très souvent on pense qu'une ville du bassin minier c'est plutôt gris, avec un plafond bas, etc., ce qui est vrai, mais si vous rentrez dans notre commune, vous allez vous rendre compte que c'est très verdoyant, on a beaucoup d'espace, c'est 12 km² de superficie, et en fait c'est une vraie ville périurbaine, avec à la fois de l'urbanisation, mais beaucoup d'espace vert, beaucoup de poumons verts, avec du développement de la biodiversité, 10 km de trame verte, où vous pouvez du coup vous balader en famille sur des espaces sécurisés qui traversent l'ensemble de la ville. Donc je trouve que ce serait la couleur verte.
Et alors, si c'était un son?
Ah, si c'était un son, alors ce serait les oiseaux. Parce que ce qui marque notamment, alors moi j'aime beaucoup me balader sur les terris, et il y a un développement assez important, et il y a un recensement d'ailleurs par le CPIE, la chaîne des terris, et c'est absolument merveilleux puisque vous entendez les oiseaux chanter, d'ailleurs c'est même parfois très bruyant.
Si c'était un goût.
Alors si c'était un goût, alors là je pense que ce serait un goût sucré. Vous voyez, parce que les gens se sentent bien, se sentent vraiment bien dans notre commune, et on aime aussi les bonnes choses. Il y a beaucoup de convivialité. Donc par exemple, on a un tissu de quelques brasseries. On a trois endroits où vous pouvez manger à Losanguel, hein, une brasserie au PMU, le Ménadel, et puis on a le Briquet du Chevalet, qui sont un peu les trois espaces où on mange le plus. On a aussi un petit kebab là. Mais quand vous allez manger, vous avez des produits bio, vous avez des produits locaux, vous avez des produits typiques au nord, carbonade, etc. Et donc c'est toujours très très sucré, très costaud et hyper convivial, quoi. Voilà, c'est ça que vous allez retrouver. Donc je dirais ce goût, un goût de carbonade, tiens.
Un goût de carbonade. Et pour l'odeur, est-ce que tu aurais une odeur emblématique?
Ah, c'est une bonne question. Pour l'odeur, l'odeur, vous savez, des fois qui peut être désagréable, mais l'odeur du fumier, en fait.
Ouais.
Et pour moi, c'est une bonne odeur parce qu'on a la chance. On est une ville, on parle beaucoup de son histoire minière, c'est vrai. C'est 150 ans d'histoire minière, donc c'est important. Mais c'est d'abord une ville qui s'est développée autour de l'agriculture. Et donc, vous avez une plaine immense, et donc avec encore aujourd'hui une petite dizaine d'exploitations agricoles qui fonctionnent sur notre territoire. Et donc, quand vous vous baladez dans les champs, vous avez cette odeur que moi, je trouve agréable dans les champs, parce que ce sont eux qui nous nourrissent. Et puis, c'est tellement agréable de pouvoir se promener. On l'a vécu, par exemple, pendant la période Covid, hein, où on était tous confinés à 1 kilomètre autour de chez soi. Si vous habitiez Losanguel, vous aviez la possibilité de sortir et d'avoir vraiment de l'espace de respiration dans cette plaine, par exemple.
Alors, lorsqu'on parle de Los, de la commune, on parle souvent de résilience hein, quand on travaille dans le développement territorial. La résilience, hein, cette capacité à anticiper, à agir et à surmonter les difficultés pour assurer un développement durable. Alors justement, d'où ça part à Los? Quel est le choc de départ pour qu'on comprenne bien ici sur la commune?
Alors le choc, il va arriver en 1986 pour nous, avec l'arrêt des mines en fait, tout simplement. Ça va être 92 pour Oigny, hein, c'est la dernière mine qui va fermer. Et qu'est-ce que ça veut dire la fermeture des mines? C'est la fin d'un modèle qui était unique, hein, puisqu'on était sur une mono-industrie, donc il faut avoir en tête que tout était organisé par les compagnies minières, et donc c'était la seule activité économique, hein, tout le monde travaillait à la mine, mais la mine encadrait aussi le logement. Donc vous aviez un logement des mines, hein, les fameux corons, ou pour ceux qui avaient des titres différents, il y avait des maisons d'ingénieurs pour les contremaîtres, etc., etc. Et donc même les activités, par exemple, étaient organisées, la santé, etc. Bon bref, un système qui était hyper encadré, tenu par les mines, qui s'effondre du jour au lendemain. Vous n'avez pas de plan B. Et ben du coup, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment au fond du trou. Et donc du coup, ça c'est le choc initial qu'a connu Losanguel et l'ensemble des villes du bassin minier. Donc un modèle économique qui n'est plus vertueux. On peut trouver du charbon ailleurs et moins cher. Et donc du coup, ben plus d'intérêt pour les mines du Nord-Pas-de-Calais. Et donc elles vont se fermer une à une. Et pour Losanguel, elles vont se fermer en 1986. Et donc c'est le point de choc. Et la question de la résilience, ben forcément, c'est une anticipation. De Marcel Caron, qui est le maire de l'époque et qui, dès 84, se rend compte qu'on est, d'ailleurs, même fin des années 60, hein, déjà, Voltaire Leclerc, qui est le maire à l'époque, va miser, par exemple, sur le développement de d'autres plateformes économiques, parce qu'il se rend bien compte que le système va pas durer longtemps. Et Marcel Caron, en 84, comprend qu'il y a besoin d'écrire cette histoire-là et d'essayer de se réinventer et de le faire avec les habitants. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le point de départ du renforcement de l'implication des habitants. habitants cette vision de dire que notre modèle va s'écrouler, ça va être une catastrophe économique, ça va être une catastrophe sociale, ça va être une catastrophe aussi environnementale, hein, puisque l'eau va être polluée, il va y avoir des affaissements miniers importants, etc. Enfin, plein de conséquences à l'activité minière. Et donc, Marcel Caron, avec les habitants, et notamment en créant les Goéliades, qui existent toujours, on va fêter les 40 ans cette année, c'est un festival de 15 jours autour de la Pentecôte, qui permet de compter notre histoire et de montrer aussi tout le potentiel qui existe déjà pour justement bâtir un avenir plus durable. Et donc aujourd'hui, on est dans cette volonté de trouver des réponses aux transitions à opérer entre un modèle qui était non durable, celui de la mine, et vers un modèle qu'on essaye de construire, sur lequel on essaye d'avoir aussi une représentation, puisqu'il fallait pouvoir se l'imaginer. Aujourd'hui, on commence à voir apparaître des éléments de ce nouveau modèle. Voilà, une mobilité décarbonée. Enfin, on pourrait citer plein de choses. Et donc, aujourd'hui, c'est la trajectoire de l'os, qui est en plus aujourd'hui matérialisée par le site du 1119, puisque le site du 1119, c'est un peu notre étendard. C'est une ancienne structure des mines qui aujourd'hui bah, opérait sa résilience, justement. Puisqu'elle accueille depuis de nombreuses années des éco-activités avec le CPIE, la chaîne des terres, le Centre Espace Ressources du Développement Durable ou le CD2E qui accompagne toutes les éco-entreprises. On a aussi une pépinière des éco-entreprises. Donc bref, elle matérialise un peu cette trajectoire-là, même physiquement sur un lieu de la mine.
Oui, c'est ce que tu évoquais du travail de Marcel Caron, c'est que il a d'abord travaillé sur la question culturelle et historique.
Tout à fait.
De l'identité de la commune. C'est là-dessus, hein, c'est à partir de là qu'il y a une systémisation du développement durable dans les politiques publiques.
Bah, c'est Marcel Caron, je pense que lui se rend compte qu'il va falloir se serrer les coudes, faire ensemble et s'appuyer sur déjà le potentiel existant. C'est-à-dire s'il y a un modèle qui s'effondre, mais on part pas de rien. Et donc, je pense que ce qu'il veut faire apparaître, c'est qu'il y a déjà du potentiel qui existe. On a un tissu d'artisans, par exemple, qui va mettre en valeur. On a des artistes. Et puis surtout, il y a besoin d'embarquer les habitants. Et donc, l'implication dans des événements culturels permet de... et notamment, il va créer des grandes créations culturelles. À l'époque, on appelait ça des sons et lumières. Et la première, ça va être terre d'en haut, terre d'en bas. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'histoire de l'agriculture et des mineurs. Et donc, l'idée, c'est que les gens comprennent ce qui se passe sur leur territoire. Parce que comprendre, ça veut dire aussi réfléchir, et ça veut dire quels sont identifiés les leviers qui vont permettre de retrouver une dynamique. Et donc, je pense qu'il fait ça. Et ça va être Jean-François Caron, plus précisément, quand il arrive en 97, quand il est notamment conseiller délégué. Avant d'être maire, il a été conseiller délégué. Et notamment, en s'appuyant sur le plan d'occupation des sols, qui va opérer les premiers éléments d'un développement plus durable, avec une pensée plus forte des questions environnementales. Et notamment, il va structurer une charte du cadre de vie en 2000. Et cette charte du cadre de vie, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'idée d'essayer d'anticiper justement tous les risques que nous connaissons aujourd'hui, tous les défis qui sont à mettre en place. Et une fois qu'il sera maire en 2001, bah, il va opérer toutes des actions, des expérimentations sur l'ensemble des transitions, et ça avec une approche globale, une approche systémique. C'est ce qui fait aussi la force du projet L'Ossoir.
Oui. Alors, par rapport à cette systématisation du développement durable, c'est une question sur la temporalité. C'est comment on arrive à concilier le long terme et le court terme, notamment quand on est élu, quand on est agent des collectivités titulaires et qu'on sait qu'on va y passer quelques années. On peut se projeter sur du moyen terme, du long terme, et on accompagne les politiques publiques, mais quand on est élu pour un mandat de 6 ans, comme tu l'es, comment tu vas réussir à concilier justement ce court terme et ce long terme?
Bah, c'est un peu la complexité.
Oui.
C'est d'ailleurs, il y a court terme, long terme. On pourrait aussi parler de proximité et transition. Souvent, on oppose les choses. Et en fait, moi, je suis convaincu que c'est en ayant une vision sur du long terme, mais en même temps en ayant des actions concrètes qui permettent de comprendre comment on va vers cette vision, ça permet de pouvoir embarquer les gens et du coup de se donner du temps. Et quasiment pour les élus, c'est aussi une possibilité de se faire réélire, puisque pour beaucoup, ils sont dans cette course-là. Et donc, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, c'est cette transformation-là, cette conduite du changement, en fait, qui a opéré. Hein. C'est pour ça qu'on est reconnu par l'ADEME comme démonstrateur sociétal, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir impliquer, embarquer les gens, faire avec eux, les responsabiliser. Et du coup, ça opère de la confiance et ça permet aux gens de changer et de mieux appréhender les enjeux d'aujourd'hui. Donc, c'est ce travail-là qui permet, en fait, de se donner du long terme. Et effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que d'avoir investi sur ces questions-là, ça nous a permis des réélections de mieux en mieux d'ailleurs, même si aujourd'hui, bon, malheureusement, on est la seule liste, mais parce que aussi ça a fédéré. Aujourd'hui, on a des gens du socialiste, apparenté des Verts, des gens de la société civile, des communistes qui sont venus progressivement rejoindre la liste de Jean-François Caron. C'est parce que aussi il y a un projet qui est partagé. Je me souviens même d'un monsieur qui portait la liste de droite, hein, anciennement LR, qui disait, bon, je vous embête pas trop en conseil municipal. Pourquoi ? Parce que globalement, ce que vous faites le job, quoi. Mmh. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça, il le disait forcément dans des endroits plus restreints.
Et alors, le court terme, là, les premiers mois de ton mandat et ceux à venir, quels sont les petits cailloux blancs, pour reprendre l'expression de Jean-François Caron, quels sont les petits cailloux blancs que tu as sortis de terre ?
Il y en a beaucoup. On avait je voulais avancer aussi sur des sujets qu'on n'avait pas pu attraper jusque-là, parce que quand on est au champ et à la ville, c'est difficile parfois de tout porter. Donc moi, je pense qu'il peut pas y avoir de transition sans les jeunes, par exemple. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment travaillé en amont. Et donc j'ai développé et multiplié en fait les accueils de mineurs. Avec l'idée aussi d'avoir un travail autour du territoire et des actions qui sont menées sur notre territoire. Et donc, j'ai réouvert, par exemple, des accueils de mineurs sur toutes les petites vacances. Ça n'existait pas chez nous. Sur le mercredi, par exemple, aussi. Et donc, aujourd'hui, ça permet d'essayer d'avoir des temps un peu plus réguliers aussi avec les jeunes et de leur montrer à voir ce qui existe sur leur commune. Donc ça, par exemple, c'est un premier projet. On avait la même chose avec les retraités, des gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent la ville, qui envoient aussi une partie de transformation, mais on organise aussi avec les personnes âgées des sorties diverses et variées qui permettent d'essaimer un petit peu ce qui est fait, puisque on partage beaucoup, on reçoit beaucoup de délégations, mais c'est important aussi d'acculturer progressivement notre population, puisque même si les gens adhèrent, parfois ils ont du mal à mettre des mots sur ces transformations-là qui s'opèrent. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ce mouvement. Ensuite, l'idée, c'est de continuer à avancer. Donc, par exemple, je pense sur les mobilités. Moi, j'ai mis en place une prime incitative au vélo. Voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais mis en place. Et donc, comme on commence à avoir quand même pas mal d'espace pour pouvoir rouler en ville de manière sécurisée, alors c'est toujours pas assez, hein. Bien sûr, il faudrait faire beaucoup plus. Mais on a une prime incitative qui est aujourd'hui un énorme succès sur notre commune. Et je signe sans arrêt des aides au vélo. Donc voilà, je pourrais en citer pas mal, mais c'est les premières là qui me viennent.
Très bien. Alors, venons-en à parler de l'implication citoyenne. Avec cette première question, c'est: qu'est-ce qu'un territoire a à ne pas perdre d'impliquer les habitants ? Alors, j'aurais pu poser la question, qu'est-ce qu'un territoire a à gagner d'impliquer les habitants, mais je veux plutôt être sur le versant inverse.
D'accord, donc ce qu'elle aurait à ne pas perdre. Oui. D'accord, j'essaye d'être sûr de comprendre la
bon,
question.
Sinon, tu peux répondre par ce qu'elle a gagné.
Ce qu'elle va pas... Alors, ce qu'elle va pas perdre, c'est ce qu'elle pense perdre initialement, c'est du pouvoir.
Ouais.
Et en fait, le politique, il pense souvent qu'il va perdre du pouvoir ou que ça va le mettre en difficulté d'aller au-devant des habitants. Dans une certaine mesure, oui, parce que c'est plus difficile. C'est forcément, vous mettez plus de personnes autour de la table. Ça peut être très rapidement un joyeux beans, pour le dire de manière polie. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dès lors qu'on y met un peu de technicité, de préparation, qu'on a une maîtrise de ces dossiers et qu'on va en quête de cette expertise d'usage, parce que c'est les habitants. Si vous parlez d'une rue, c'est les habitants qui y vivent tous les jours. Donc, ils ont beaucoup plus d'informations que ce que nous, on peut avoir, idem sur leurs besoins. Et je pense qu'on peut pas opérer de transition, on peut pas opérer un changement si on prend pas en compte la parole des habitants. Ça veut pas dire de les écouter et de dire oui, ça veut dire comment on les met en mouvement pour qu'avec nous, ils y réfléchissent, ils se construisent un point de vue qui soit plus éclairé que peut-être leur point de départ. Donc, on va qualifier leur leur point de vue, pour ensuite avoir une réflexion commune et permettre de, par exemple, développer de l'espace public le mieux possible par rapport aux besoins des habitants et aussi les deniers publics de la commune. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'on n'a pas perdu, c'est du pouvoir, puisqu'au contraire, ça donne beaucoup plus de puissance, parce que les actions, quand elles sont mises en œuvre, il y a une reconnaissance des habitants, et en fait, il y a une reconnaissance beaucoup plus forte des habitants vis-à-vis du politique, et je pense que ça peut être en partie une baguette magique pour redonner aussi du crédit aux politiques. Bien sûr, c'est pas simple, il y a un pendant, il faut pas se raconter d'histoire. La difficulté, c'est que parfois, on peut très vite basculer dans du populisme à vouloir dire oui à tous aux habitants. Donc ça, il faut absolument rester responsable de ça. Il faut absolument aussi, effectivement, créer des voies pour qu'ils prennent une responsabilité et qu'ils soient engagés. Pour pas que ce soit un truc, j'exige, je voudrais, et donc il n'y a plus qu'à faire, vous ville. Donc il faut surtout pas se faire piéger de ce point de vue-là. Et puis l'autre pendant aussi, c'est que c'est énergivore, ça c'est vrai, ça prend du temps, ça nécessite de l'expertise, ça nécessite de l'animation, ça nécessite parfois aussi de retrouver d'autres dispositifs, il faut se réinventer, et c'est pas toujours facile. Et puis les gens parfois sont un peu durs, c'est vrai. Il peut y avoir des réunions qui bousculent un petit peu et qui nécessitent aussi de la maîtrise, du savoir-faire et ça c'est un peu en dynamique qu'on l'apprend.
Justement, à l'OS, depuis le départ de l'épisode, de l'enregistrement, on parle d'implication citoyenne et non de démocratie participative. Et cette nuance, oui, elle est très importante. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre ce qui distingue ces deux termes ?
De mon point de vue, la démocratie participative, et notamment quand une candidate au présidentiel l'avait repris, c'est quelque chose de, on met tout le monde autour de la table, on vous écoute, et puis on va en sortir quelque chose. Moi, je pense que c'est pas suffisant en fait, ce niveau-là. Donc, l'implication, c'est vraiment dans l'idée de responsabiliser, que les gens mettent vraiment le doigt dans la machine et puis quasiment ils y laissent le bras et un peu plus. Et qu'ils soient vraiment acteurs actifs, moteurs, responsables, engagés. Et ça fait une grosse différence entre la démocratie participative et cette notion d'implication. Donc c'est ça qu'on cherche. On cherche à ce que les gens y trouvent une forme d'implication, une place quelque part aussi dans la société sur ces sujets-là. Donc ça répond aussi des fois à ces attentes-là des habitants. Et puis le fait de s'impliquer va permettre aussi le renforcement de la compréhension des enjeux et sa capacité individuelle et collective à pouvoir faire face aux enjeux qui sont devant nous. Et donc l'idée, si j'avais une image, c'est en fait on muscle aussi les gens. Et donc il faut que les gens mettent un pied dans le sujet, mouillent le maillot avec nous, et ensuite ils en sortent plus forts. C'est ça pour moi la définition de l'implication habitante.
Tu emploies pas mal de métaphores autour du sport. Tu es toi-même sportif, Geoffrey ?
Oui. Alors je le fus. Je suis toujours passionné de football. Je sais qu'en politique c'est pas hyper sexy, mais c'est vrai. C'est un sport populaire que moi j'adore particulièrement, surtout au niveau amateur. Quand on sort de la question de l'argent, etc. Et puis du tennis de table. Donc oui, j'ai beaucoup de métaphores comme ça, et j'ai une âme en fait d'entraîneur, puisque je pense que un entraîneur c'est quelqu'un qui développe ses ressources et qui est capable de faire en sorte qu'un collectif puisse aller de l'avant, jouer une partition pour un résultat positif. Et j'ai l'impression que les maires, de plus en plus, on n'est pas dans un rôle de sachant descendant, au contraire, on est dans un rôle d'entraîneur, de comment on développe ses ressources avec ses élus, avec ses agents, comment on fait équipe avec les habitants et comment on arrive en fait à aller vers quelque chose de plus vertueux pour les uns et les autres.
J'imagine que tu supportes les 100 et or.
Ça c'est depuis enfant. Non, il y a pas de joker, bien sûr à 200%. On est tous derrière le Racing, et puis on est particulièrement fiers du Racing. On l'a toujours été, mais on a connu 10 années très difficiles en Ligue 2 avec des matchs des 0-0 contre Ajaccio en plein décembre et où ça a été difficile. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Racing incarne les valeurs du territoire, des valeurs de solidarité, de courage, de volonté aussi d'assumer une envie de jouer en Ligue des Champions. Donc nous, on a envie de jouer en Ligue des Champions comme le Racing, et on essaie de le faire avec nos petits moyens. Donc je pense que c'est ce qui fait que Los Angeles a cette aura aussi, et le territoire de l'agglomération de Nancy-Évin notamment, puisque bah, avec une équipe, même avec des faibles moyens, mais avec une solidarité, une envie de bien jouer, et puis du courage et un état d'esprit, on peut aller loin.
Alors bon, c'était la partie sport. On pourrait en parler des heures parce que moi-même, oui. Moi-même, je suis fan de foot. Ce qui est très important, tu t'as parlé de rôle, là, celui de l'élu, où on sent bien que derrière cette implication citoyenne, les rôles se recomposent. Tu t'as nommé notamment le rôle d'animateur de l'élu. Est-ce que tu peux davantage le décrire et notamment inviter aussi les auditrices et les auditeurs élus qui nous écoutent à modifier leur posture et leur engagement. Voilà.
Alors peut-être sur le contenu. Effectivement, je suis convaincu qu'il peut pas y avoir de conduite du changement, et la conduite du changement, elle est nécessaire pour pouvoir porter les transitions. Et donc, pour pouvoir le faire, le modèle ancien d'un élu qui explique ce qu'il faut faire, ça ne marche plus. On le voit encore plus fortement avec les nouvelles générations. Et donc, du coup, il faut une attitude différente. Il faut pouvoir se moderniser. Il y a quelque chose comme ça aussi générationnel dans les modes de faire. Et j'ai un exemple, par exemple, d'un élu que j'avais accompagné, qui était quelqu'un qui était dans le BTP, un monsieur, et qui au départ se disait, mais moi, j'ai pas besoin pour faire une salle des fêtes, par exemple, j'ai pas besoin des habitants. Qu'est-ce que je vais faire avec les habitants ? Je sais mieux qu'eux. Et en fait, quand il a voulu travailler ses premiers sujets avec les habitants, qu'il s'est rendu compte que les habitants avaient des remarques pertinentes sur leurs besoins, qui lui permettaient derrière de prendre de meilleures décisions parce qu'elles étaient éclairées. Et donc forcément, dans la réalisation, il avait un retour beaucoup plus puissant des habitants. Et le fait de les avoir écoutés, d'avoir travaillé avec eux, d'avoir co-construit une action, ça lui permettait une reconnaissance encore plus forte. Ensuite, c'était lui qui nous engueulait à chaque projet en disant « mais moi, je veux plus de participation ». Donnez-moi encore de nouvelles, comment on peut faire, comment on peut développer. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que on le voit bien dans les urnes, il y a de moins en moins de gens quand même qui votent. Donc ça doit quand même nous alerter, nous en tant qu'élus. Donc il y a une légitimité effectivement, et je ne crache pas sur la démocratie représentative, on est élu, donc on est élu du peuple, ça se remet pas en cause. Mais par contre, je pense qu'il y a nécessité pour pouvoir opérer ces transitions dans les meilleures conditions et pouvoir répondre aux besoins, d'aller se renforcer en impliquant les habitants. Et ça permet du coup un meilleur retour, et je pense aussi que ça peut permettre du coup un développement plus serein pour les élus de leur projet de ville.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a des formations pour les élus ? Quand toi t'as pris ton poste, est-ce qu'on t'a proposé des formations justement pour cette posture, cet engagement ?
Alors, il y en a pas suffisamment à mon goût. Oui. Aujourd'hui, chacun essaye de s'y faire. Alors, moi, autant je promeux les formations, etc. Mais je pense aussi qu'il y a il y a aussi les questions de pair à pair, de pouvoir aussi échanger avec les villes autour de ça, et notamment des villes qui s'engagent aussi sur les transitions. Et puis c'est surtout à l'intérieur des communes de pouvoir aussi partager savoir-faire. Donc nous, ça fait de nombreuses années, depuis 2005, on travaille avec des cabinets pour pouvoir ramasser tout ce qui est produit à l'os. Et de pouvoir l'échanger en dynamique, ce qui permet à chaque chef de projet de partager ses réussites, ses échecs, de pouvoir en retirer des expériences, de les capitaliser. Donc on est toujours dans une démarche un peu de recherche-action depuis de nombreuses années, qui nous permet du coup de nous former à l'interne. Et puis régulièrement, on va aussi chercher de l'ingénierie extérieure pour pouvoir nous aider. Donc par exemple, on travaille avec le cabinet Atémis sur les questions de coopération au travail, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de mieux appréhender la question de la coopération, parce qu'on peut pas opérer des transitions dans une approche systémique si on fonctionne en silo, par exemple. Et parfois, ça pouvait nous arriver de fonctionner en silo. Et donc, du coup, comment on opère ça ? Par exemple, ça s'est passé par des changements d'organigramme, d'organisation, etc. Donc, il a fallu se questionner sur tous ces sujets-là. Donc, à la fois de la recherche-action à l'intérieur, à la fois de l'ingénierie extérieure pour pouvoir venir nous muscler, et puis les SEMAG aussi derrière pour pouvoir partager notre expérience et d'avoir des retours aussi pertinents qui nous permettent de progresser. Sur les structures de formation, il y a des formations qui sont proposées, qui sont plus ou moins de qualité. Voilà, ça se développe un peu, mais c'est encore, effectivement, encore un petit peu léger.
Est-ce que à l'os, l'élu ne décide plus.
Ah, mais moi, je pense que plus que jamais, il est dans des décisions qui vont être plus simples à prendre. Dès lors qu'on est dans une co-construction, il y a un échange, c'est pas quelque chose qui est pris un peu dans une boîte noire, et dès lors que ça sort dans la rue, on en a un retour, ce qui est quand même pour moi plus risqué que d'être dans une démarche. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'application, c'est qu'on a déjà des retours en direct, on a déjà purgé beaucoup de questions, et donc il y a moins de risques de non-adhésion, je vais dire, de la population. Donc je pense que c'est auparavant qu'il y avait beaucoup plus de risques, et je n'ai pas été élu il y a 20 ans ou 30 ans, mais j'imagine que quand des décisions étaient mauvaises, ils devaient en voir des vertes et des pas mûres. Donc du coup, moi je pense que c'est plutôt sur ce prisme-là qu'on peut le prendre.
Oui. Et derrière tout ça, pour toi, les qualités essentielles à mobiliser?
Alors, il y en a beaucoup. Moi, je pense que d'abord, il faut pouvoir avoir une équipe technique qui tient ses projets techniquement de manière sûre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'interstice non plus entre ce que va dire un technicien et un élu, par exemple, en réunion publique ou lors d'un atelier. Donc, ça nécessite de bien maîtriser ces sujets d'abord et de bien les partager à l'interne. Ça, c'est pour moi, c'est une recette numéro un. La deuxième, c'est une capacité, une vraie écoute, une écoute active qui n'est pas juste on vous écoute, mais avec un questionnement pour qualifier les besoins qui est absolument essentiel. Une capacité du maire ou de l'élu référent de se mettre dans une posture d'animateur. Voilà, c'est comment aussi on libère la parole et comment en même temps on crée des règles de débat. Par exemple, dans les réunions publiques, voilà, dès le départ on le dit. Voilà, les gens doivent pas prendre la parole pendant 2 heures. C'est pas toujours les mêmes. Il faut créer les conditions aussi pour que les gens peut-être les plus éloignés, qui ont peur de prendre la parole en public, on puisse créer des dispositifs qui leur permettent de s'exprimer. Donc, par exemple, les petits groupes, ça permet d'avoir de l'expression. Ou des fois aussi avec des animateurs de quartier, puisque les gens ont l'habitude de fonctionner avec les animateurs de quartier, ils peuvent avoir des dispositifs à côté du sujet dans des espaces plus intimes, plus confinés, plus propices en fait à leur expression. Voilà, de les organiser pour pouvoir permettre tout ça. Donc, ça nécessite effectivement une maîtrise des sujets, de l'ingénierie d'animation. Et puis, ça nécessite du politique et du technicien d'accepter que des fois, les casquettes peuvent se interchanger. D'ailleurs, des fois, on a des techniciens qui sont pas loin d'être des élus dans le pilotage de projet parce que ça le nécessite un moment. Des fois, des élus qui sont un peu le technicien, ou des fois, l'habitant qui devient l'expert technique d'un sujet parce qu'il a une expertise particulière sur un sujet, sur un projet. Donc, voilà, c'est ces changements-là qui doivent être acceptés pour pouvoir se sentir le plus à l'aise possible.
Est-ce que tu aurais des résultats, des petites anecdotes sous forme de c'est des résultats sous forme d'anecdotes à nous partager qui montrent que justement l'implication citoyenne est réussie à l'os?
Bon, on en a plein. Il y en a deux là qui me viennent en tête parce qu'ils m'ont marqué. Il y en a une qui est toute récente et il y en a une qui est très ancienne. La première qui m'a marqué, c'était Cité 5, des jeunes qui avaient fait une pétition au maire pour dire « Écoutez, monsieur le maire, il y a vraiment rien dans notre quartier, on est les oubliés, on est loin de la ville, tout le monde s'en fout. Et nous, on voudrait s'amuser, on voudrait des espaces de loisirs. » Et donc, on avait mené toute une démarche participative avec les jeunes et on était atterri à un espace multisport à mettre en place dans le quartier. Et les élus avaient dit « Oui, mais on peut pas le mettre n'importe où, il y a beaucoup de parties urbanisées, on va avoir des problèmes avec les habitants, enfin, c'est pas possible, on peut pas faire des choses comme ça. Donc, on va aller le mettre au fond d'une friche et là, les jeunes poseront pas de problème. » Et en fait, je dis « Mais non, mais moi, les jeunes, ils le veulent en plein cœur du quartier. » Et là, on a dit, mais comment on rebondit là-dessus? D'un côté, les élus qui pensent que ça va poser problème. De l'autre côté, des jeunes qui ont un projet, qui l'ont imaginé. Et puis, il nous manquait une partie prenante. C'était tous les riverains, en fait, qui étaient autour. Et donc, on a organisé des temps avec eux. Et en fait, on s'est rendu compte que les riverains nous disaient, non, nous, on est prêts à accepter des nuisances. Parce que, c'est nos jeunes, en fait. Hein, c'est pas juste des jeunes. C'est nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc, nous, on préfère les avoir en proximité. Par contre, effectivement, peut-être la nuit, le soir, ce serait bien qu'il y ait rien. Et donc, on aimerait que ce soit là, mais sous ces conditions-là. Et donc, personne n'était d'accord. Et donc, on a refait un temps d'échange avec les uns et les autres. Et les jeunes ont réussi à convaincre. Avec le soutien, notamment, je me souviens d'une retraitée qui s'était levée en disant « Écoutez, je pense que votre travail, il est vraiment intéressant. Aujourd'hui, il y a un compromis qui semble tomber juste. à vous, élus, de prendre vos responsabilités. Le compromis, il est là, il est à cet endroit-là, c'est-à-dire il est en plein cœur du parc Loët, juste derrière chez nous. Et nous, on est d'accord pour que ça se fasse là.
Et
résultat, ça s'est fait là. Et donc, d'ailleurs, on a eu très peu de problèmes de nuisance. On en a eu un peu, hein, on va être honnête, il y en a toujours un petit peu sur ce type d'espace-là, mais très à la marge. Et en plus de 15 ans, on a eu une seule dégradation. Et c'était des jeunes qui venaient de l'extérieur, et c'est des habitants, justement, des riverains, qui ont tout de suite appelé la police et qui sont sortis. C'était un petit incendie sur le tapis, et c'est la seule dégradation qu'on ait eue en plus de 15 ans. Donc ça, c'était la première. Puis la deuxième, c'est un 50-50, donc c'est des opérations qu'on fait avec les habitants, et c'est des parents d'élèves, en fait, qui s'était plaint qu'il n'y avait pas assez d'animation le midi pendant le temps de la pause méridienne. Et en travaillant avec eux, on leur a dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, non, à l'os, ce n'est pas notre manière de faire. On réfléchit ensemble, on essaye de voir comment on peut trouver des solutions. Et en fait, il y a une idée qui a émergé de parents, de se dire, mais s'il y avait au moins des marquages au sol, des jeux type Marel et autres, aujourd'hui, il y a des jeux plus modernes que ça, ce serait super. Et donc, on a atterri sur un 50-50 où nous, on a payé des bombes de peinture et les habitants, les parents d'élèves avec les enseignants et aussi quelques enfants sont venus les samedis pour faire ce marquage dans la cour pour pouvoir jouer le midi notamment. Et on a fait, tout ça, ça a été réalisé. Et le lundi matin, quand les enfants ont eu accès, moi, j'y suis allé sur place. Et en fait, tous les parents qui étaient là ont vu les grilles de l'école s'ouvrir et tous les enfants se mettent à jouer sur les jeux au sol qui avait été fait par les parents, qui avait été fait par les enseignants. Et il y avait une émotion, une puissance de l'action publique qu'on n'aurait jamais eu si on avait fait faire ça par une société. En plus, ça nous aurait coûté certainement 50, 60 000 euros pour faire ça dans la cour. Et là, ça a dû nous coûter 3 000 euros. Donc voilà un peu ce que peut donner comme résultat l'implication.
Tu cites ces deux exemples autour de la jeunesse, des parents. Tu as cité aussi l'exemple autour d'une salle des fêtes. Enfin, il y a énormément d'exemples à Los Angeles. Je pourrais même citer les panneaux photovoltaïques sur l'église.
Oui.
Est-ce que, quand même, l'implication citoyenne, est-ce qu'elle est valable pour toutes les politiques publiques? Toutes les compétences de la commune? Et est-ce que voilà, c'est valable à tous les niveaux stratégiques ou de terrain que sur lesquels tu peux être confronté tous les jours?
Sur l'implication, il y a différents niveaux. C'est vrai qu'il y a peut-être, c'est plus facile sur l'espace public, c'est peut-être plus facile sur des sujets micro que macro, ça c'est sûr, mais je pense qu'il peut toujours y avoir un espace. Et dans notre définition de l'implication, on a trois niveaux. Il y a au moins un niveau d'information. Faut pas que les gens découvrent des choses, faut pas que ça tombe du ciel. Donc toujours un minima au moins de leur donner cette information-là. Et l'exemple qui a toujours été donné, c'est faut pas que quelqu'un ouvre sa porte d'entrée et voit des travaux devant chez lui. Parce que ça crée pas les bonnes conditions, en fait, d'échange. Les gens découvrent et ça, ils aiment pas. Et comme tout le monde, hein, on n'aime pas avoir ce type de surprise. Après, il y a le niveau de la consultation. On peut toujours demander un avis. Ça coûte rien de demander un avis, mais on l'assume. On dit, voilà, là, on va vous demander votre avis. On hésite, une piste cyclable, on ne sait pas si on la met à droite ou à gauche. On va en faire une, hein. On vous demande pas votre avis. On va la faire parce qu'on pense que c'est important. Par contre, il y a peut-être un choix opéré. Quels sont vos besoins? Donc, ça peut être quelque chose de consultatif. Et puis après, effectivement, quelque chose de produit ou même dans la co-gestion. Je pense par exemple à une salle de musique, hein, qu'on a fait avec des groupes et qui aujourd'hui même gérée complètement par une association. Donc, mais à chaque fois, on essaie de donner les règles du jeu aux habitants pour dire où on se situe par rapport à un projet donné. Et sur les compétences d'une ville, c'est sûr que c'est difficile de faire de l'implication sur l'état civil. Par exemple, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire là-dessus, par exemple. Mais du coup, par contre, il y a des questions qui se posent. Par exemple, à un moment donné, on était questionné sur les cartes nationales d'identité. Pourquoi vous en faites pas? Bon, voilà, on a répondu aux habitants. On a fait un article dans notre Écoloswap. Voilà, c'était juste à titre informatif. Voilà comment ça se passe. Il y a des territoires qui ont été choisis, pas nous. Aujourd'hui, ça se fait à tel endroit, et on est en train de se bagarrer pour qu'il puisse y avoir une commune dans notre territoire. Et d'ailleurs, c'est la commune de Bully qui est juste à côté de chez nous, qui peut aujourd'hui faire des cartes d'identité. Donc, ça peut être sur ces sujets-là, au moins d'avoir donné l'information ou la possibilité d'avoir un espace d'expression des habitants.
Et alors, quel récit on adopte pour mobiliser, impliquer davantage et aussi, alors tu vas me dire si vous l'évitez, cet écueil-là, c'est que ça soit toujours les mêmes qui viennent et qui se manifestent, qui s'expriment.
C'est le risque, hein. On l'a par moment, effectivement, parce qu'on a des gens qui sont tout le temps mobilisables. ça c'est sûr. Donc on y a un noyau de personnes à l'os qui que vous allez retrouver sur sur tous les événements, qui en plus ont pris beaucoup de plaisir là-dessus, qui trouvent aussi une sorte de contre-pouvoir là-dedans, de capacité à s'impliquer, même peut-être même existentielle, hein, des gens qui sont vraiment très heureux. Moi, le nombre de fois où les gens me disent quand vous voulez, on se mobilise, on y va. Donc il y a ce noyau dur là. Et ensuite, c'est des groupes d'habitants qui vont venir suivant les enjeux. Tout à l'heure, on parlait des jeunes. Bon, les jeunes, si c'est un sujet qui les intéresse, on va les avoir. Sur d'autres moins. Faut aussi accepter que autour de cette grappe de toujours les mêmes, en fonction des enjeux, on ait d'autres groupes d'acteurs qui viennent se mêler. Hein. Par exemple, quand on travaille la question des déchets, on a plus facilement les agriculteurs, les chasseurs et toute cette bande de personnes qu'on retrouve régulièrement. On a peut-être plus facilement les écoles, par exemple. Donc en fait, chaque sujet, on essaie de bien identifier les parties prenantes, et il faut accepter que sur chaque sujet, vous n'allez pas avoir votre 7000 habitants. D'ailleurs, ils ont d'autres choses à faire aussi, hein, les habitants, en réalité. Hein, ils doivent juste vivre, manger, travailler, enfin, faire leur quotidien, s'occuper des enfants. Donc on peut avoir le phénomène que les autres, par moment, d'avoir toujours les mêmes. Et ça, c'est vrai qu'on les retrouve. Mais si on arrive à avoir des vrais enjeux, et ça, j'insiste sur la notion d'enjeu, parce que si c'est des sujets sur lesquels il se joue pas grand-chose en termes de mobilisation, bof, quoi.
Oui.
Donc l'idée, c'est de bien identifier si ce sujet a un enjeu, et s'il a un enjeu, de pouvoir effectivement opérer une animation qui permette l'implication des habitants.
Et est-ce que vous avez changé votre mise en récit depuis tout ce temps de la pratique de l'implication citoyenne?
Oui, effectivement, c'est évolutif. Alors, je ne sais pas si on l'a changé. On retrouve toujours à peu près les mêmes éléments. Je pense que là, on a fait un peu le tour, avantages, inconvénients, le récit de l'implication, les exemples que je vous donnais, on en a juste beaucoup plus, quoi, tout simplement. Et la fin de ce récit-là, elle est aujourd'hui avec un événement qui s'appelle Fête in Loss, et qui permet chaque année de faire le point sur toutes les implications des habitants sur notre territoire et de pouvoir en rendre compte. Par exemple, on organise des ch'tis TEDx qui permettent aussi aux acteurs de ces changements-là de pouvoir se raconter, de raconter leur propre récit. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être ça qui évolue, c'est-à-dire le récit est le même, mais par contre, on crée des espaces qui permettent aux gens de raconter eux-mêmes leur récit et en dire ce qu'ils ont envie d'en dire. Et d'ailleurs, c'est même intéressant parce que parfois, dans leur récit, ils critiquent un peu les services de la ville ou l'élu parce que parfois, ça se passe pas bien, on n'est pas d'accord, enfin, il y a des étapes. Et donc, si on voit que le résultat, ça peut être soit positif, soit négatif. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir discuter du processus. Donc, je pense que le récit est le même, mais par contre, on se pose de plus en plus précisément sur la question de quels sont les process pour arriver à un résultat d'implication.
Oui. Alors, les limites, il y en a, on les a parcourues, et puis je renverrai aussi dans la description de l'épisode au référentiel que vous avez écrit à plusieurs mains, que je recommande.
Oui, c'est Antoine Reynaud qui a écrit ce référentiel sur la base notamment de témoignages de Jean-François Caron, Julien Perdrija, de moi-même, et puis aussi de d'autres élus et techniciens de la ville, mais voilà, qui a ramassé effectivement quasiment une trentaine d'années d'expérience, de savoir-faire, et ce référentiel aujourd'hui, même si moi j'aime pas le terme de référentiel, mais c'est plutôt une sorte de guide des bons réflexes, de choses à savoir avant de s'engager et de le mettre dans son contexte donné, parce qu'on n'a pas tous le même contexte, mais du coup d'avoir quelques ingrédients pour en faire sa recette.
Oui, je mettrai ce guide en description pour que les auditrices et auditeurs puissent le télécharger notamment. Et à un moment donné, dans ce guide, on aborde justement le changement d'échelle. Alors là, j'aimerais entendre à la fois l'ancien DGS que tu étais, le maire et le vice-président actuel. Hein, comment tu fais pour que l'implication citoyenne dépasse l'échelle communale? Voilà, j'imagine, moi je suis habitant, je suis lossois, mais en même temps, je vais travailler à côté, donc je sors de la commune. On n'implique pas pareil les gens, alors ça doit créer un peu de frustration, etc. Et on doit se dire, à l'os, on est vraiment bien verni, on est vraiment bien choyé. Voilà, comment t'arrives à faire que votre démonstrateur, le démonstrateur que vous êtes, ça infuse aussi à l'échelle de l'agglo, par exemple?
C'est effectivement, alors c'était un sujet, c'est toujours un sujet, mais ça a été un sujet fort pendant très longtemps, notamment au début des années 2000 jusqu'en 2010, où on avait vraiment des difficultés à pouvoir essaimer et quelque part faire roue d'engrenage avec notre agglomération, et des fois ça pouvait être un petit peu compliqué. Je me souviens que les élus de l'époque s'en plaignaient quand même pas mal, et au fur et à mesure de l'agglomération, il y a quand même des sujets qui ont été repris, notamment tout à l'heure je parlais de la question alimentaire, et par exemple sur le développement du bio avec nos agriculteurs, on avait une grosse expérience là-dessus, et progressivement l'agglomération s'est saisie de ce sujet-là et a créé un système alimentaire territorial durable, par exemple. Donc l'expérience de l'OS a été un appui pour pouvoir développer au niveau de l'agglomération. Même chose par exemple sur les questions d'énergie. Donc l'expérience de l'OS a aussi inspiré l'agglomération, a donné envie d'aller un peu plus loin sur cette trajectoire-là, et aujourd'hui il y a un service mutualisé de l'énergie qui est en place au niveau de l'agglomération et qui du coup permet une massification en fait à l'échelle des 36 communes de l'agglo pour pouvoir essayer d'avoir une puissance de frappe plus forte pour notamment la rénovation de nos équipements recevant du public ou sur la production de photovoltaïque ou sur la création de réseaux de chaleur par exemple. Donc il y a des résultats de ce type-là. Sur la question de l'implication, on a été peu sollicité, on a eu un peu de mal, et pourtant ça a quand même inspiré, puisque notamment via la direction cohésion sociale, l'agglomération a mis en place un laboratoire des participations auxquelles du coup on contribue et qui du coup est aussi pour nous un résultat de l'essaimage au niveau local. Donc c'est quelque chose qui prend, ça a pris du temps pour que ça puisse prendre. Je dis pas que tout est gagné sur toutes les thématiques, mais il y a une confiance qui s'installe, il y a une reconnaissance de ce travail-là, et notamment, moi je travaille beaucoup et depuis 3 ans avec les élus communautaires, donc avec les maires des autres agglos et leurs équipes, à trouver des espaces qui nous permettent les uns et les autres de pouvoir avancer sur ces sujets de transition, puisque maintenant tout le monde est convaincu qu'il faut y aller. Et c'est un peu dans cet esprit-là d'ailleurs que moi je me suis un peu bagarré pour recevoir les TEPOS, les territoires énergie positif, hein, le réseau donc qui est porté par Leclerc, et qui donc il va, ces 3 jours-là, c'est un événement national qui va avoir lieu à Los Angeles les 2, 3 et 4 octobre prochains, et qui vont permettre justement aussi d'échanger avec tous les territoires de notre agglo et au-delà du pôle métropolitain de l'Artois sur toutes les initiatives qui sont prises et sur comment on peut mettre ça en lumière et puis faire converger et massifier pour répondre aujourd'hui aux enjeux des dérèglements climatiques, de l'effondrement de la biodiversité. Et la transition énergétique, elle est, à mon sens, absolument centrale.
Ouais, donc l'essaimage est en cours.
Oui.
Quel est le plus grand enseignement de cette implication citoyenne, si tu devais en retenir un?
Ah, le plus grand enseignement d'accord. Si je devais en retenir un, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est la question du lien. Ça renforce le lien. En fait, ça renforce le vivre ensemble. C'est pas forcément ce qu'on projette au départ. Au départ, on veut développer des projets, on veut que ce soit des projets de meilleure qualité. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même sur des échecs, ça a permis d'apprendre à se connaître, ça a permis à comprendre les points de vue, les postures aussi des uns et des autres. Et en fait, ça renforce notre capacité à débattre. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment le lien que ça peut générer. Au-delà parfois des dogmes qu'on peut avoir, il y a des hommes et des femmes en fait qui ont envie de faire avancer leur territoire, et donc même quand il y a des désaccords, et parfois il peut y avoir aussi des conflits, hein, des conflits à résoudre là-dessus, ça permet de les dépasser parce que on est quand même dans un objectif commun qui est de développer son territoire, et ça rassemble. Donc voilà, je dirais le lien.
Et enfin, par rapport à tout ce que tu as dit en complément, quel conseil tu donnerais aux élus et aux territoires qui nous écoutent sur cette question de l'implication citoyenne?
Alors, les conseillers sont pas les meilleurs payeurs. Moi, j'aime bien être en posture d'humilité, vous savez, parce que être élu, et encore plus aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile. Donc, moi, j'ai pas forcément, en tout cas, je pense pas qu'il faut être dans le conseil, mais je peux donner un point de vue. Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, la posture d'élu, on nous réclame tout. En fait, on attend tout de nous, très souvent, ou tout est de notre faute. Et la question de l'implication, c'est aussi un espace qui permet de rendre compte, mais au sens, pour moi, vertueux du terme. c'est-à-dire d'expliquer pourquoi à un moment donné on en arrive à faire des choix et pas d'autres, de partager les enjeux, mais surtout l'argumentaire derrière ces enjeux-là. Et derrière, ça permet aux habitants de se créer un point de vue, mais qui est éclairé. Et donc, ils ont le droit d'être contre nous, ils ont le droit d'être, de pas être d'accord avec nous, ils ont même le droit de voter contre nous, mais ils le font de manière consciente au regard de l'ensemble des informations qu'ils ont pu collecter et ils ont pu se faire leur propre point de vue. Et donc, ça, c'est important de mon point de vue, de pouvoir travailler, j'ai envie de dire, au même niveau avec les habitants, parce que très souvent, malheureusement, et on le voit avec l'explosion des réseaux sociaux, hein, les commentaires qui peuvent être faits, ce sont des commentaires très éloigné en fait de la réalité du travail qui est porté par les élus. Mais que fait le maire? Comme si le maire ne faisait rien. Ou mais le maire attend quoi? Qu'il y ait un mort? Mais bien sûr, tous les maires se lèvent le matin en se disant tiens, je vais attendre aujourd'hui qu'il y ait un mort avant de faire quelque chose. Bon, du coup, ça permet de lutter contre cette distance là. Et je pense que vraiment c'est un outil important aujourd'hui dans notre démocratie.
Oui. Ce que j'entends derrière, c'est que ça crée des espaces de rencontre et c'est des vrais espaces de rencontre, c'est pas uniquement de la communication descendante du maire auprès de ses administrés. Là tu es là physiquement, etc.
Oui, c'est ça, c'est un espace de travail où chacun va pouvoir développer ses idées, les argumenter, les confronter aux autres. Et du coup, de pouvoir vérifier si, à un moment donné, on est plutôt sur quelque chose qui tient la route ou qui tient pas la route, qui est partagé, qui est pas partagé, et qui permet en fait aux uns et aux autres de mieux comprendre les attentes et puis aussi les directions qui sont proposées par les élus, par les techniciens de la ville ou par les habitants d'un quartier, par exemple.
Merci Geoffrey pour tous ces éléments. Alors, en guise de conclusion, c'est une question signature du podcast. Puis en plus, si tu es supporter des 100 et or, qu'est-ce que l'audace pour toi? Bon, tu as le droit à la métaphore footballistique. Hein.
C'est vrai. Non, mais je sais pas. C'est pas ce qui me vient, mais pour moi, l'audace, c'est la vie, quoi. C'est l'espoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, il peut pas y avoir d'espoir s'il y a pas d'audace. On est dans un monde qui s'effondre. Je vais pas faire un discours de collapsologie, mais quand même, on n'en est pas loin quand même. Quand on voit le mois de février, c'était le mois de février le plus chaud de tous les temps. Et donc, du coup, l'enjeu, il est important. Et aujourd'hui, on a besoin de gens audacieux. Et j'aime bien dans le mot d'audace, c'est qu'il n'y a pas de prétention ou d'arrogance, mais l'envie d'oser, l'envie d'avancer. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on soit proactif sur ces questions-là, sans être non plus extrémiste. C'est-à-dire, moi, je lutte beaucoup aussi contre les extrémistes parce que je pense qu'il n'y a rien de bon là-dessus. Mais l'audace, c'est à un moment donné d'oser porter un discours. Et puis, même si parfois il y a des vents contraires, de continuer à avancer sa barque parce qu'on a vraiment besoin de solutions et de massification des réponses aux enjeux du climat et de l'effondrement de la biodiversité.
Est-ce que tu as un mantra?
Est-ce que j'ai un mantra? Non, en fait, moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas de mentor, j'ai pas de mantra, j'ai pas. Moi, ma seule boussole, je pense que on l'oublie souvent, mais en fait, c'est celle du cœur. Qu'est-ce qui vous fait vivre? C'est celle des tripes. Pourquoi je bouge? Je bouge parce que j'ai une fille. Je bouge parce que j'ai des gens que j'aime autour de moi. Je bouge parce que il y a des habitants auxquels je suis attaché dans ma commune, un territoire. Et du coup, j'ai pas forcément besoin de motivation. Je me lève le matin et je sais pourquoi je me suis levé.
T'as du sens et une raison d'être, ouais, derrière.
Exactement, exactement.
Alors, peut-être un endroit ressource à nous partager sur la commune. Tu vois, l'endroit où t'aimes bien aller, te ressourcer.
Ah, mais j'ai pas envie de vous le dire. Non, bien sûr, je vous le partage et j'invite même tout le monde à y aller. Bien sûr, c'est les terris du 11-19. Oui. Qui sont ouverts au public, qui sont les terris les plus hauts d'Europe, qui sont juste remarquables. Alors bien sûr, y aller en respectant toutes les consignes qui sont données, parce que c'est un site minier, ça a été fabriqué par la main de l'homme, hein, c'est pas un site naturel. Et d'ailleurs, on a opéré des travaux aujourd'hui qui permettent la mise en tourisme du terri, puis on va continuer, on va travailler sur la pointe. Mais les terris, à la fois, c'est merveilleux pour la biodiversité que vous allez pouvoir y trouver, c'est merveilleux parce que c'est un poumon vert, vous pouvez y respirer en famille, vous pouvez même pique-niquer compliquée. Enfin, c'est immense. Hein. Les terris sont à 186 mètres de hauteur aussi. Donc, il y a un côté un peu pyramide d'Égypte qui vous emmène un peu ailleurs. Et puis, surtout, vous avez la possibilité, quand vous montez au sommet, de voir à 360 degrés, ce qui est quand même assez remarquable, assez rare, sur un point qui est culminant. Et donc, vous voyez Lorette, vous voyez vraiment tout ce qui peut... Bollard, tout à l'heure, on parlait de Bollard, vous voyez très bien Bollard de là. Moi, j'ai déjà été voir des matchs au sommet des Terris, juste pour voir la ferveur quand ça monte et entendre le bruit qui sort du stade. C'est juste magnifique. Donc, voilà, pour mille raisons, ce serait le site du 11-19. Voilà.
J'irai. J'ai appris que c'était en effet les plus hauts terris d'Europe et que c'est un joli symbole de résilience. Je pense que
tout à fait. D'ailleurs, quand vous êtes en haut des terris, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez autour, vous avez tous les éléments de notre résilience. C'est-à-dire que vous avez par exemple une plateforme qui s'appelle LumiWatt qui teste des panneaux solaires. Donc vous avez d'un côté les terris qui représentent quand même les déchets de la mine, et juste au pied vous avez les panneaux solaires de LumiWatt. Donc on voit tout de suite la trajectoire qui est matérialisée par le 11-19. C'est un peu tout ce qu'on vient de se raconter qui est visible physiquement autour du 11-19.
Est-ce que tu aurais un conseil de lecture?
Ah ben, tout à l'heure, je parlais de Pablo Servigne. Ouais. Ben, je pense qu'il faut absolument le lire. Mais ensuite, moi, je suis amoureux de Patrick Vivray, vous voyez. Donc, vraiment, je trouve que ce qu'il écrit, et notamment son livre sur la richesse, reconsidérer la richesse, mais il en a écrit plein d'autres, c'est vraiment la question de qu'est-ce qui a de la valeur pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait sens? Et je pense qu'il faut absolument qu'on se repose ces questions-là dans une société consumériste où on pense qu'être heureux, c'est posséder, c'est toujours acheté. Et on voit parfois les comportements des enfants. Et moi-même, hein, je lutte, hein, des fois même avec ma propre fille. C'est pas facile parce que les enfants, mais c'est à quoi ils attachent de la valeur? Quand est-ce qu'on passe du temps réellement avec ses proches? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre de ce qui nous fait vivre, en fait? Et donc, je pense qu'il y a un écart énorme entre ce qu'on nous vend être le bonheur aujourd'hui, et notamment quand on allume notre télé, ce serait posséder une grosse BMW avec ou un gros 4x4 avec une grande baraque. Enfin, bref, c'est hyper caricatural. Alors que moi, je trouve que mon petit bonheur, c'est d'aller voir un match de foot amateur quand il y a un petit peu de soleil ou à l'os, quoi.
Ben merci beaucoup, Geoffrey. Pour ton temps et ton témoignage.
De rien.
Si les gens souhaitent te contacter, ils contactent la mairie directement.
Oui, tout à fait. J'ai un directeur de cabinet, Antoine Reynaud, qui est bien chargé, mais qui vous répondra. Voilà, et avec plaisir, puisqu'effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est d'essayer de se connecter avec toutes les envies de changement. Et donc, voilà, on est complètement disponible pour toutes ces questions-là.
Oui, bah, ce que je retiens, moi, en tout cas, de l'épisode, c'est que l'implication citoyenne, c'est une forme d'investissement mais qui est nécessaire pour accompagner la transition et qui donne des résultats structurels notamment. Et que c'est, en fait, tu l'as dit, c'est que c'est pas perdre du pouvoir d'agir, c'est pas que l'élu perd du pouvoir d'agir, au contraire, il va donner du pouvoir d'agir à ses concitoyens, et par la même occasion, il renforce aussi sa capacité d'animateur, de faiseur, de personne qui est là aussi pour modifier la trajectoire. Voilà, ça donne de la pertinence en fait aux politiques publiques davantage. C'est ce que j'entends.
Exactement,
aussi,
ouais. Exactement. Ouais. Ça qualifie les politiques publiques, ouais. Et ça donne plus de puissance du coup aux politiques publiques menées par l'élu, et in fine, même pour l'élu hein, qui hésiterait, bah c'est cette reconnaissance là, il la retrouvera dans la rue, il la retrouvera dans les urnes, à mon sens en tout cas. C'est pas forcément mathématique, hein, donc il pourrait y avoir des expériences qui seraient moins bonnes, hein, on en connaît quelques-unes, mais c'est quand même très à la marge de ce que moi je peux constater au quotidien.
Ouais, tu dirais que la démocratie se porte meilleure.
Oui, ouais. Tout à fait.
Eh ben, merci beaucoup, Geoffrey. Ce fut un grand plaisir. Et puis, bonne continuation à toi, en tout cas.
Eh ben, merci. C'était un plaisir partagé. Et puis, je vous souhaite bonne route. Et puis, à très bientôt sur ces routes-là, si nos chemins devaient se croiser à un autre moment.
En tout cas, au revoir. Sur les terrils de l'os, voilà.
Avec plaisir. Si vous êtes là, vous m'appelez, on peut s'organiser pour vous faire une visite.
Merci à toi, Geoffrey, à très bientôt.
Merci, au revoir.
Super, vous voilà arrivé à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram. À bientôt !